Chapitre 7. Une simple façon de penser. Assise sur son lit, Elaine passa de la main gauche le dernier des 100 coups requis pour entretenir sa chevelure. Puis elle rangea la brosse dans son petit nécessaire de voyage en cuir, le poussant ensuite sous le lit. Après une journée consacrée à canaliser le pouvoir, afin de fabriquer des terres angréales, elle avait comme une barre derrière les yeux. Décidément, elle passait bien trop de temps à essayer de créer des terres angréales. En équilibre instable sur leur tabouret branlant, Ninevé avait depuis longtemps fini de brosser sa longue crinière et elle s'affairait à retisser sa natte pour la nuit. Son visage brillait de sueur. Même avec l'unique fenêtre ouverte, la petite chambre était une fournaise. Alors que la lune pleine brillait dans un ciel piqueté d'étoiles, la bougie agonisante des deux femmes leur fournissait une très chiche lumière. À Salidar, les chandelles et les lampes à huile manquaient cruellement. Du coup, on les rationnait, sauf pour les gens qui devaient faire des travaux d'écriture. La chambre étant minuscule, avec à peine assez de place pour aller et venir entre les lits, les affaires des deux femmes étaient entassées dans deux coffres de bois renforcés de cuivre. Les robes d'accepté et les capes, dont elles n'avaient pas le moins du monde besoin en ce moment, pendaient à des patères fixées au mur, dont le plâtre craquelé et jauni laissait par endroits apercevoir l'armature de bois. Une petite table tout aussi bancale que le tabouret tenait tout juste entre les deux lits, et dans le coin toilette, sur une autre table, reposaient une cuvette et un broc blanc copieusement ébréchés. En matière de privilèges, même des acceptés dont on tapotait la tête à tout bout de champ n'étaient pas mieux traités que les autres. Sur la table, dans un vase jaune au col fendu posé entre deux poteries d'un marron tirant sur l'ocre, quelques fleurs sauvages bleues et jaunes finissaient de se faner. Abusés par le climat, les pauvres s'étaient autorisés une floraison tardive, qui ne leur avait jamais permis de s'épanouir. Avec le pinson qui s'ennuyait ferme dans sa cage d'osier, elle constituait néanmoins le seul îlot de couleurs vives de la chambre. Quant à l'oiseau, Elaine l'avait recueilli et soignait sa patte cassée. Précédemment, elle avait tenté en vain de mobiliser ses maigres compétences en guérison pour sauver un autre pinson. Mais le choc avait tué cette créature bien trop petite et bien trop fragile.
« Assez de plaintes !»
pensa la fille héritière. Si les Aes Sedai vivaient un peu mieux, le sort des novices et des serviteurs était encore pire que le sien, et les soldats de Garrett Bryne dormaient presque tous à même le sol.
« Quand on ne peut rien changer, on supporte tout !»
Encore une des phrases favorites de Ligny. Eh bien, à Salidar, il fallait supporter l'absence de luxe, non, de confort, tout simplement, et la chaleur accablante. Elaine écarta son chemisier de sa peau et souffla dans l'espace ainsi ménagé.
« Nous devons arriver avant elles, Ninevé. Tu sais de quelle humeur elles sont quand on les force à attendre. »
Sans un souffle de vent et dans un air si surchauffé, même une momie aurait transpiré à grosses gouttes. Il devait bien y avoir quelque chose à faire au sujet du climat. Pourtant, si ça avait été le cas, les régentes des vents du peuple de la mer auraient déjà trouvé une solution. Cela dit, Elaine aurait pu imaginer quelque chose elle-même, si les Aes Sedai ne l'avaient pas gardée occupée en permanence avec les terres angréales. Une acceptée avait en théorie le droit d'organiser ses études comme elle l'entendait, mais là...
« Si elle pensait que je peux leur montrer comment créer des terres angréales tout en mangeant, je n'aurais plus de minute à moi. »
Au moins, le lendemain, elle bénéficierait d'un répit. Tout en marchant vers son lit, Ninevé, sourcils froncés, jouait avec le bracelet de la dame qu'elle portait au poignet. Elle insistait pour qu'une d'elles le porte en permanence, même la nuit, alors que l'artefact induisait des rêves étranges et désagréables. Une précaution inutile, car la dame, même accrochée à une patère, aurait retenu prisonnière Moguedienne, qui partageait en plus une chambre minuscule avec Birgit. Très douée pour jouer les geôlières, l'héroïne avait en plus le don de flanquer la trouille à la rejeter, sans doute parce qu'elle n'avait aucune raison de vouloir qu'elle vive et tous les motifs de souhaiter sa mort. Ce soir, le bracelet serait encore plus inutile que d'habitude.
« Ninevé, elles vont attendre !»
L'ancienne sage-dame soupira dédaigneusement, car elle détestait être aux ordres de quelqu'un. Elle prit pourtant sur la table de chevet un des deux anneaux de pierre aplatis qui s'y trouvaient. Les deux étant trop grands pour qu'on se les passe au doigt, l'un était veiné de bleu et de marron, et l'autre de rouge et de bleu. Et chacun, bien entendu, était distordu de façon à n'avoir qu'une seule face, si on suivait celle-ci du bout d'un doigt. Dénouant la cordelette qui entourait son cou, Ninevé y ajouta l'anneau bleu et marron, à côté de la lourde chevalière d'or de l'âne, qu'elle caressa du bout des doigts avant de remettre le tout sous sa chemise de lin. Elaine saisit l'anneau rouge et bleu et l'étudia pensivement. Les deux bijoux étaient des copies d'un terre angréal désormais en la possession de Siouan. En dépit de leur apparence, ces artefacts étaient d'une complexité qui dépassait l'imagination. Si on dormait avec l'un d'eux contre sa peau, on était transporté dans le monde des rêves, tel Aranriod, une sorte de reflet de l'univers réel. Ou de tous les univers, car selon certaines Aes Sedai, il en existait une infinité, comme si toutes les variations possibles de la trame existaient bel et bien, générant ensemble une sorte de trame géante. L'essentiel, cependant, restait que tel Aranriod reflétait ce monde-ci, et offrait des possibilités extrêmement utiles. Cerise sur le gâteau, la Tour Blanche ignorait comment y accéder. En tout cas, elle en donnait bien l'impression. Même si ses copies étaient moins efficaces que l'original, elles fonctionnaient. Avec le temps, Elaine devenait de plus en plus habile. Sur 4 tentatives de reproduire l'anneau, une seule avait échoué. Un pourcentage bien meilleur que lorsqu'elle tentait de créer à partir de rien. Mais qu'arriverait-il si un de ses ratés faisait pire que de ne pas fonctionner ou qu'être défectueux? En étudiant des terres angréales, des Aes Sedai avaient été accidentellement calmés. Carbonisés, disait-on dans ces cas-là. Ce qui ne changeait rien au résultat final et définitif. Nineveh n'était pas d'accord sur le définitif. Quoi d'étonnant chez une femme qui ne serait pas satisfaite avant d'avoir guéri un sujet mort depuis 3 jours. Elaine fit tourner l'anneau entre ses doigts. Son action était assez facile à comprendre, mais le comment lui échappait toujours. Les clés, c'était pourtant comment et pourquoi. En ce qui concernait les anneaux, selon elle, le jeu de couleurs était aussi important que la forme. Tout objet différent n'avait absolument aucun effet, et le raté uniformément bleu se contentait de vous flanquer des cauchemars abominables. Hélas, la fille héritière n'était pas parvenue à reproduire les veignures rouges, bleues et marrons de l'original. Pourtant, la structure de ces copies correspondait, tout comme la configuration interne de leurs molécules, impossible à observer sans recourir au pouvoir. Mais pourquoi les couleurs importaient-elles? Il semblait y avoir un point commun dans la structure interne des terres angréales qui exigeait pour fonctionner qu'on catalyse le pouvoir, et un autre pour ceux qui se contentaient de l'utiliser. Grâce à cette découverte accidentelle, la fille héritière avait réussi à tenter la création d'artefacts inédits. Mais elle ignorait encore trop de choses pour procéder autrement qu'à l'aveuglette.
« Tu vas rester assise là toute la nuit ?»
demanda Nineveh. Elaine sursauta. Après avoir reposé sur la table une des tasses en poterie, l'ancienne sage-dame se coucha sur son lit, les mains croisées sur le ventre.
C'est toi qui as insisté pour qu'elle n'attende pas. En ce qui me concerne, leur donner un prétexte de nous voler dans les plumes, ces vieilles chouettes adorent ça, ne me fait ni chaud ni froid.
Elaine s'empressa de glisser l'anneau, qui n'était plus vraiment en pierre, même s'il en avait été ainsi au début du processus de reproduction, à une cordelette qu'elle se noua autour du cou. La deuxième coupe contenait elle aussi une décoction d'herbes préparée par Nineveh, et adoucie au miel pour être moins amère. La fille héritière la vida à moitié, une quantité suffisante, avait-elle constaté d'expérience, pour l'endormir même quand elle avait une migraine. Ce soir, il n'était pas question de devoir compter les moutons. Une fois couchée, Elaine éteignit la bougie avec le pouvoir, puis elle agita son chemisier pour s'aérer. Au moins, ça faisait un peu circuler l'air.
« J'aimerais qu'Egwen se remette. J'en ai assez des bribes d'informations que Shiryam et les autres nous jettent comme des miettes de pain. Je veux savoir ce qui se passe. »
Un sujet délicat s'avisa la fille héritière. Un mois et demi plus tôt, Egwen avait été blessé à Kegrienne, le jour de la mort de Moiraine et de Lanfear. Celui où Lan était parti, on ne savait où.
« Les matriarches affirment qu'elle se remet »,
souffla Nineveh dans son demi-sommeil. Pour une fois, elle ne semblait pas avoir fait le rapprochement avec Lan.
« C'est en tout cas ce que disent Shiryam et ses proches compagnes. Et elles n'auraient aucune raison de mentir, même si ça leur était permis. » Je donnerais cher pour regarder par-dessus l'épaule de Shiryam demain soir.
Autant rêver de...
Nineveh s'interrompit pour bâiller.
Rêver que le hall te nomme cher d'Amirlin tant que tu y es. Mauvais exemple, je te l'accorde. Le temps que ses sœurs se décident, tu auras peut-être l'expérience et l'âge requis.
Elaine voulut répondre, mais elle en fut empêchée par un bâillement, comme sa compagne, qui s'était mise à ronfler, pas très fort, mais avec une régularité de métronome. La fille héritière ferma les yeux, mais son esprit lutta pour ne pas s'endormir. Le hall se montrait vraiment nonchalant, ses membres siégeant souvent moins d'une heure par jour, voire pas du tout à l'occasion. Quand on s'adressait à l'une des représentantes, on en retirait le sentiment qu'il n'y avait aucune urgence. Bien entendu, les représentantes des 6 Ajas, à Salidar, il n'y avait pas de sœur rouge, ça tombait sous le sens, ne confiaient pas ce qui se disait en séance à leurs collègues, et encore moins aux acceptés. Pourtant, elles auraient eu toutes les raisons du monde de se presser. Si leurs intentions demeuraient secrètes, leur réunion ne l'était sûrement plus, et la Tour Blanche, dirigée par Elaïda, ne continuerait pas à les ignorer jusqu'à la fin des temps. Pour ne rien arranger, Les capes blanches n'étaient qu'à quelques lieues de là, en Amadicia, et des rumeurs circulaient au sujet de fidèles du dragon présents en Altara, où se trouvait Salidar. Si Rand ne les contrôlait pas, seule la lumière savait de quoi les fidèles du dragon pouvaient être capables. Le prophète en était un bon exemple, enfin, façon de parler. Des émeutes, des maisons et des fermes brûlées, des gens tués parce qu'ils ne soutenaient pas avec assez de ferveur le dragon réincarné. Les ronflements de Nineveh évoquaient un tissu qui se déchire dans le lointain. Après un autre bâillement, Elaine se tourna sur le côté et enfouit sa tête dans l'oreiller. Des raisons de se presser. Samael était en Ilian, et la frontière de ce pays se trouvait à quelques centaines de lieues de Salidar. Quand il s'agissait d'un des rejetés, c'était toujours trop près. À part ça, nul ne savait où étaient les autres rejetés, ni ce qu'ils complotaient. Et Rand. Les représentantes auraient dû s'inquiéter à son sujet. Non qu'il fût dangereux, voilà qu'il n'arriverait jamais. Mais il était la clé de tout, et la trame se tissait vraiment autour de lui. Quoi qu'il arrive, elle ferait de lui son champion. Mine. La délégation devait être à mi-chemin de Kaemlyn désormais. D'autant plus qu'il n'y avait pas de neige pour la ralentir. Encore un mois avant d'arriver. Bien sûr, savoir que Mine allait voir Rand n'inquiétait pas Elaine. Pour qui cette fille se prenait-elle? Mine. Sombrant dans le sommeil, Elaine bascula dans le monde des rêves. Et se retrouva au milieu de la rue principale de Salidar, dans le silence de la nuit, la lune gibbeuse brillant dans le ciel. Constatant qu'elle y voyait bien plus clairement qu'elle l'aurait dû avec la seule lumière de l'astre nocturne, la fille héritière ne s'étonna pas. En Tel Aranriod, on avait toujours une impression de luminosité venant de partout et de nulle part à la fois, comme si l'obscurité elle-même avait pu luire. Il en allait de même dans les rêves, et au fond c'était un songe, même s'il n'avait rien d'ordinaire. Le reflet de Salidar était très fidèle, sans pour autant être une copie conforme, surtout à cause du calme surnaturel, même en pleine nuit, qui y régnait. Toutes les fenêtres étaient obscures, et une sensation de vide pesait sur le village, comme si personne n'occupait ces bâtiments. Et c'était bien le cas, ici. Le cri d'un oiseau de nuit fut relayé par un autre, puis par un troisième, et il y eut un bruissement dans les ombres, comme si une créature s'enfuyait. Mais si les animaux sauvages étaient présents, il n'y avait pas de chevaux dans les écuries. Pas davantage dans les enclos, et pas de moutons et de vaches dans les clairières où on les avait rassemblés. Aucun animal domestique, en d'autres termes. Entre un coup d'œil et un autre, des détails se modifiaient. Si les bâtiments en toit de chaume ne changeaient pas, un tonneau de récupération de l'eau de pluie pouvait ne plus être au même endroit ou même avoir disparu. Pareillement, une porte ouverte était susceptible de se refermer toute seule. Plus une chose était transitoire dans le monde réel, moins son reflet se révélait stable et plus sa position ou sa condition pouvait fluctuer. De temps en temps, une silhouette apparaissait et disparaissait dans les rues obscures. Parfois, ces spectres fugitifs semblaient même glisser sur le sol plutôt que marcher. Si les rêves de bien des gens pouvaient les conduire en Tel Aranriod, le séjour ne durait jamais longtemps, et c'était une chance. Car ce qui arrivait à un dormeur dans le monde des rêves ne s'effaçait pas à son réveil. En d'autres termes, quand on y mourait, c'était pour de bon. Un étrange reflet, vraiment. Seule la chaleur semblait identique. Nineveh était là, dans sa robe blanche d'accepté à l'orlet composé de bandes de couleurs. Fidèle à sa nature, elle s'impatientait aux côtés de Léane et de Siouan. Bien entendu, elle avait le bracelet, même si, depuis Tel Aranriod, il n'aurait aucune influence sur le monde éveillé. Mogadienne y était toujours liée, mais Nineveh, sortie de son corps, ne sentirait rien par l'intermédiaire de la dame. Léane resplendissait de majestueuse veltesse. Hélas, au goût d'Elaine, sa robe de manie à peine opaque détournait l'attention de son incontestable élégance. La couleur du vêtement changeait sans cesse, le genre d'inconvénient qui se produisait jusqu'à ce qu'on ait vraiment appris à dominer le monde des rêves. Siouan, en revanche, s'en tirait très bien. Vêtue d'une robe bleue très simple, elle avait choisi un décolleté juste assez généreux pour qu'on voie l'anneau de pierre original qui pendait à son cou, accroché à un collier. Cela dit, de la dentelle apparaissait de temps en temps sur la robe, et le collier oscillait entre une stricte chaîne d'argent et une rivière de pierres précieuses. Des rubis, des émeraudes, des gouttes de feu, assorties à de superbes boucles d'oreilles. L'anneau original pendant à son cou, Siouan semblait avoir autant de substance que les solides bâtiments. À ses propres yeux, Elaine paraissait tout aussi réelle, mais les autres, elle le savait, la voyaient comme une vision brumeuse, ainsi que lui apparaissaient Nineveh et Léane. Si diaphane, en réalité, qu'elle aurait pu croire qu'elle voyait les rayons de lune à travers leur corps. Les choses se passaient ainsi quand on utilisait une copie de l'anneau. La fille héritière sentait la source authentique, mais dans son état, le Saïdar lui semblait frêle. Et si elle avait tenté de le canaliser, le résultat aurait été tout aussi ténu. Avec l'artefact original que portait Suan, il en aurait été autrement. Mais c'était ça, le prix à payer, quand quelqu'un avait percé au jour des secrets qu'on ne voulait pas entendre crier sur tous les toits. Se fiant à l'original plus qu'aux copies d'Elaine, l'ancienne chair d'Amerlin l'avait en somme annexée, même si elle le prêtait parfois à Léane, tandis qu'Elaine et Nineveh, pourtant en mesure d'utiliser le Saïdar, devaient faire avec les copies.
« Où sont-elles ?»
demanda Suan, l'encolure de sa robe fluctuant sans cesse. La soie était verte désormais, et le collier se composait de grosses pierres de lune.
« D'abord, elles plongent un aviron dans mon eau et se mettent à ramer, puis elles me font attendre. Je ne comprends pas en quoi ça te dérange qu'elles nous accompagnent, »
dit Léane.
« Tu adores les voir faire des erreurs, et elles ne savent pas la moitié de ce qu'elles croient savoir. »
Un instant, la robe de l'ancienne gardienne des chroniques menaça de devenir carrément transparente. Puis un torque de perles apparut autour de son cou avant de se volatiliser. Plus inexpérimentée encore que Suan, elle ne s'en aperçut pas.
« J'aurais besoin de dormir, »
soupira Suan.
« Brian me mène vraiment la vie dure. Mais je dois attendre le bon plaisir de femmes qui vont passer la moitié de la nuit à se rappeler comment on fait pour marcher. Sans parler de devoir m'acoquiner avec ces deux-là. »
Elle fronça les sourcils à l'intention de Nineveh et Elaine, puis roula des yeux au ciel. Nineveh saisit fermement sa natte, un indice que la moutarde commença à lui monter au nez. Et pour une fois, Elaine se sentait en phase avec elle. Être le professeur quand les élèves pensaient en savoir beaucoup plus long que vous n'était pas une sinécure. Surtout quand les élèves en question avaient l'autorité d'imposer le silence au professeur, alors que l'inverse était inenvisageable. Cela dit, les autres s'avéraient encore pires que Suan et Léane. Mais où était-elle au fait? Il y eut du mouvement au bout de la rue. Six femmes approchaient, entourées de l'aura du Saïdar, qui ne se dissipa pas. Comme d'habitude, Sheryam et les membres de son cercle rapprochés avaient commencé à rêver dans leurs chambres respectives avant d'en sortir. Elaine n'aurait pas juré qu'elle comprenait pour de bon le fonctionnement de Telaran Riod. De toute façon, elle tenait à faire les choses à leur façon, même quand il existait un meilleur moyen de procéder. Qui pouvait en savoir plus long qu'une Aes Sedai? Les six sœurs étaient pourtant des débutantes dans le monde des rêves, et leur tenue changeait chaque fois qu'Elaine les regardait. Pour commencer, une seule arborait son châle aux franges à la couleur de son aja, une flamme de Tarvalon dans le dos. Puis il y en eut quatre, et ensuite aucune. Une cape de voyage légère, elle aussi ornée d'une flamme, dans le dos et sur le côté gauche, apparut sur certaines, puis se dématérialisa. Comme de juste, la chaleur n'affectait en rien ces femmes, dont le visage restait de marbre. Et bien entendu, elles n'avaient pas conscience de leurs avatars vestimentaires. Aux yeux d'Elaine, elles étaient aussi éthérées que Nineveh et Léane. Pour accéder à Telaran Riod, Sheryam et ses compagnes se fiaient davantage à des terrangréales liés aux rêves et qui exigeaient l'intervention du pouvoir. Se méfiant des anneaux, elle semblait résolue à ne pas accepter l'idée que le monde des rêves n'avait rien à voir avec le pouvoir de l'unique. En l'état, la fille héritière aurait été incapable de dire lesquelles utilisaient ses copies. Cependant, elle savait que trois sœurs devaient avoir sur elles un petit disque, originellement en fer, doté sur les deux faces d'une spirale serrée et alimentée par un flux d'esprit. Le seul des cinq pouvoirs qu'on pouvait manier dans son sommeil. Sauf en ce lieu, bien sûr. Les trois autres devaient garder par-devers elles une petite plaque, naguère en ambre, ornée de la gravure d'une femme endormie. Dans chacun de ces ensembles, Elaine aurait été en peine de distinguer les deux copies de l'original, parce que le protocole de duplication s'était déroulé à merveille. Cela dit, une copie restait une copie. Alors que les Aes Sedai descendaient la rue, la fille héritière entendit la fin de leur conversation, sans en comprendre un traître mot.
« Mépriserons notre choix, Carlinia, »
disait la rousse Sheryam.
« Mais ce serait pareil quoi que nous décidions. Donc, tenons-nous à ce qui a été arrêté. Tu n'as pas besoin de moi pour faire la liste des bonnes raisons d'agir ainsi. »
Morvryn, une sœur marron bien charpentée aux cheveux gris, eut un ricanement.
« Après avoir tant œuvré pour influencer les représentantes, nous aurions du mal à les faire changer d'avis. »«
Si aucun dirigeant ne regimbe, pourquoi nous en faire ?»
lança Myrel. La plus jeune des six, Aes Sedai depuis relativement peu de temps, semblait franchement agacée.
« Quel dirigeant oserait ?»
grogna Anaya, comme une maîtresse de maison demandant quel sale gosse aurait l'audace de souiller debout ses tapis.
« De toute façon, aucune tête couronnée n'en sait assez sur ce qui se passe entre les Aes Sedai pour comprendre de quoi il s'agit. La seule réaction qui doit nous concerner, c'est celle des autres sœurs. Ce qui m'inquiète,
reprit Carlinia,
c'est qu'elle se laissera guider par nous, certes, mais risquera aussi de se laisser influencer par d'autres. »
La sœur blanche, au teint pâle et aux yeux presque noirs, restait impassible en toutes circonstances. Certains auraient même dit glaciale. Quel que soit le sujet de cette conversation, il n'était pas destiné aux oreilles d'Elaine et de ses compagnes. Du coup, les sœurs se turent un peu avant de les avoir rejointes. Dès l'apparition des nouvelles venues, Siouan et Léane s'étaient brusquement tournés le dos, comme s'ils avaient été en train de se disputer. Elaine, elle, s'assura qu'elle portait bien une robe blanche d'acceptée avec les bandes de couleur à l'ourlet. S'être présentée d'instinct dans la tenue requise lui inspira des sentiments mitigés. Nineveh, elle l'aurait parié, avait certainement dû rectifier sa mise une fois arrivée ici. Mais l'ancienne sage-dame était bien plus téméraire qu'elle, luttant sans cesse contre des limitations auxquelles la fille héritière se pliait. Dans ces conditions, comment ferait-elle pour régner sur le royaume d'Andorre, si sa mère était vraiment morte? Légèrement enveloppée, les pommettes hautes et les yeux verts inclinés, Shériam foudroya Siouan et Léane du regard. Un moment, un châle aux franges bleues apparut sur ses épaules.
« Si vous ne réussissez pas à vous entendre, je finirai par vous confier toutes les deux aux bons soins de Tiana. »
Une menace souvent répétée, à laquelle la sœur semblait ne plus croire elle-même.
« Vous avez travaillé ensemble très longtemps, »
dit Béonine, son accent du Tarabone à couper au couteau. Assez jolie, cette sœur grise aux cheveux blonds tressés et aux yeux bleus portait en permanence un regard étonné sur le monde. En réalité, rien ne pouvait la surprendre. Avant de l'avoir vue de ses yeux, elle n'était pas disposée à croire que le soleil se levait le matin. Et si l'astre du jour ne se montrait pas un de ces quatre, Elaine était prête à parier que Béonine aurait à peine froncé les sourcils. Au fond, ça aurait seulement confirmé qu'elle avait raison de demander une preuve.
« Vous pouvez et devez réapprendre à collaborer. »
Béonine semblait répéter des phrases auxquelles elle ne faisait même plus attention à force de les avoir annonnées. Toutes les Aes Sedai s'étaient habituées au conflit entre Siouan et Léane, l'étonnant pour deux sales gosses qui ne pouvaient s'empêcher de se chamailler. Les sœurs avaient une fâcheuse tendance à infantiliser les femmes qui ne partageaient pas leur statut. Elles ne faisaient pas exception pour la chère d'Amerline et la gardienne des chroniques déchue.
« Confie-les à Tiana ou pas, mais arrête d'en parler !»
s'écria rageusement Mireille. Elaine n'aurait pas juré que la très belle Aes Sedai était furieuse contre Siouan et Léane. D'ailleurs, elle n'en voulait peut-être à personne. Simplement, et même pour une sœur verte, elle avait un tempérament volcanique. Alors que son décolleté remontait nettement, mais avec un jour ovale qui dévoilait le haut de sa poitrine, Elaine remarqua qu'elle portait elle aussi un étrange collier d'argent où pendaient trois petits poignards, dont la poignée venait se nicher dans son encolure. Un quatrième apparut, mais se volatilisa si vite qu'il aurait pu être le fruit de l'imagination de la fille héritière.
« Alors, nous allons à la tour ou non ?»
demanda Mireille en étudiant Nineveh de la tête aux pieds. Une sorte d'inspection.
« Puisque nous devons subir cette corvée, autant en profiter pour faire quelque chose d'utile. »
Elaine comprit pourquoi Mireille était furieuse. Quand elles étaient arrivées à Salidar, Nineveh et elle avaient l'habitude de rencontrer Egwene chaque semaine dans le monde des rêves afin d'échanger des nouvelles. Une communication pas toujours simple, puisque Egwene était systématiquement accompagnée par une des matriarches, capable de marcher dans les rêves, sous la coupe desquels elle étudiait. Parvenir à se voir en privé avait été ardu, mais tout ça avait pris fin depuis que les deux jeunes femmes résidaient à Salidar. Alors qu'elle détenait seulement les trois Terrangréal originaux, et sans presque rien savoir de Tel Aran Riod à part comment y accéder, Shériam et ses cinq compagnes avaient pris en charge les rendez-vous. Egwene ayant été blessée à ce moment-là, les rencontres s'étaient réduites à des face-à-face entre Aes Sedai et matriarches. Des femmes aussi fières et résolues les unes que les autres, qui se soupçonnaient mutuellement et n'étaient pas disposées à la moindre concession. Bien entendu, Elaine ne savait rien de ces rencontres. Mais elle avait sa propre expérience et glanait parfois des bribes d'informations par la bouche de Shériam ou des autres. Certaines de pouvoir tout apprendre une fois qu'elles savaient qu'il existait quelque chose à apprendre, les Aes Sedai exigeaient qu'on leur témoigne le respect d'habitude dû aux têtes couronnées et elles s'attendaient en toutes circonstances à ce qu'on leur dise tout sans retard ni détour. Apparemment, elles avaient exigé des réponses sur tous les sujets. Que projetait donc Rand? Quand Egwene serait-elle assez rétablie pour revenir dans le monde des rêves? En Tel Aran Riod, pouvait-on épier les songes des gens? Avait-on la possibilité d'entrer en chair et en os dans le monde des rêves? Était-il envisageable d'y entraîner quelqu'un contre sa volonté? Plus d'une fois, elles avaient voulu savoir si on pouvait altérer le monde réel en agissant d'une façon ou d'une autre dans celui des songes. Et la réponse, c'était strictement impossible, n'avait pas paru les satisfaire. Ayant lu quelques textes sur Tel Aran Riod, Morvryn n'avait pas été la dernière à produire des questions à la chaîne. Cela dit, Elaine soupçonnait Siouan de lui en avoir soufflé un certain nombre. L'ancienne chère d'Amerline, en réalité, faisait tout pour être chargée de ses rencontres. mais les Aes Sedai semblaient estimer largement suffisant de la laisser utiliser l'anneau, une commodité qui l'aidait dans sa mission consistant à superviser le réseau d'agents des sœurs. Mais la façon dont les Aes Sedai fourraient leur nez dans cette tâche agaçait Suan. Quant aux Aiel, parmi les matriarches, celles qui savaient marcher dans les rêves connaissaient tout ce qu'il y avait à connaître au sujet de Telaran Riod. De plus, elles le considéraient comme un terrain de chasse, en quelque sorte. Détestant que des ignorantes s'y aventurent, elles se montraient impitoyables avec ce qu'elles jugeaient comme de la pure folie. Pour ne rien arranger, ces femmes peu loquaces par nature étaient toutes de ferventes adeptes de Rand. Du coup, leurs réponses se révélaient des plus rudimentaires. Rand, eh bien, il était vivant. Et Gwen, elle reviendrait quand le moment serait venu, et tout à l'avenant. Quant à répondre aux questions qui ne leur semblaient pas convenables, ce n'était pas envisageable. Parce qu'elles estimaient que les sœurs n'en savaient pas assez long pour obtenir des réponses? Sans doute. Mais tout aussi probablement parce qu'un certain nombre de ces questions, ou des réponses corollaires, violaient d'une façon ou d'une autre leur très curieuse philosophie de l'honneur et du devoir. À propos du Jieto, Elaine savait simplement qu'il existait et qu'il provoquait des comportements très spéciaux, dans le genre susceptible. Bref, ces rencontres hebdomadaires avaient tout pour tourner au désastre. Et du point de vue des Aes Sedai, il devait effectivement s'agir d'une série de catastrophes. Au début, Shriam et les cinq autres avaient exigé qu'on leur prodigue des leçons tous les soirs. À présent, on était passé à deux par semaine. Une la veille du rendez-vous avec les matriarches, sans doute histoire de réviser leurs compétences, et une autre le lendemain, afin de déterminer ce qui avait mal tourné et de tenter d'y remédier pour la prochaine fois. Myrel tempêtait sans doute déjà sur le gâchis du lendemain, puisqu'il y en aurait sans doute un. Morvryn se tourna vers Myrel, voulut parler, mais se pétrifia, parce qu'une nouvelle femme venait de se joindre au petit groupe. Elaine ne reconnut pas tout de suite Gera, une des cuisinières. Affichant l'éternelle jeunesse des Aes Sedai, pesant bien la moitié de son poids réel et arborant un châle aux franges vertes, Gera agita un index réprobateur sous le nez des Aes Sedai, puis elle se volatilisa.
Ainsi c'est comme ça qu'elle se rêve,
lâcha froidement Carligna. Sa robe blanche se dota de longues manches, dont les pointes recouvraient le dos de ses mains, et d'un col à ras du menton.
Quelqu'un devrait lui en toucher un mot. Laisse glisser, Carligna,
fit Anaya avec un petit rire.
Gera est une très bonne cuisinière. Laissons-la rêver ce qui lui chante. D'ailleurs, je comprends sa démarche.
Anaya devint soudain plus mince et plus grande. Seul son visage ne changea pas, avec son éternelle expression maternelle. Riant de nouveau, elle reprit son apparence habituelle.
Tu ne peux pas trouver une chose amusante pour une fois, Carligna?
La sœur blanche eut un soupir glacial.
À l'évidence, Gera nous a vus,
dit Morvryn, pensive.
Mais s'en souviendra-t-elle?
Sa robe en laine noire ordinaire ne fluctuait quasiment pas, à part certains détails, si subtils qu'Elaine aurait été en peine de mettre le doigt sur la différence.
Bien sûr qu'elle s'en souviendra,
lança Ninévé, acerbe. Elle avait déjà développé ce point plusieurs fois. Voyant que les Aes Sedai la regardaient, sourcils froncés, elle modéra son ton. Assez pour ne pas être condamnée à récurer des chaudrons, une corvée qu'elle détestait.
Si elle se rappelle son rêve, elle se souviendra de nous avoir vus. Mais dans un songe normal.
Morvryn plissa le front. En matière de preuves, elle était à peine moins exigeante que Béonine. Quel que soit son ton, pensa Elaine, si Ninévé conservait cet air ennuyé, elle allait avoir des problèmes. Heureusement, Léane eut la bonne idée de venir à son secours.
Ne pensez-vous pas que nous devrions y aller?
Minauda-t-elle. Suan ricana devant tant de maniérisme, et Léane la foudroya du regard.
Oui, autant rester à la tour le plus longtemps possible,
trancha l'ancienne chère d'Amerline. Léane eut un soupir exaspéré. Un numéro bien rodé. Shriam et les autres ne se doutaient pas le moins du monde que Suan et Léane n'étaient pas simplement deux femmes calmées qui s'accrochaient à une mission afin de survivre encore un peu, ni deux dirigeantes déchues qui ne voulaient pas renoncer totalement à leur passé, et surtout pas deux idiotes qui se crêpaient le chignon à la moindre occasion. Les sœurs auraient dû se souvenir que Suan avait eu la réputation d'être une femme de fer et une manipulatrice hors pair, Léane n'ayant pas grand-chose à lui envier en ces matières. Si les deux alliés avaient ouvertement fait front commun, ou montré leur véritable visage, les six Aes Sedai n'auraient pas eu la mémoire aussi courte, prêtant du coup l'oreille à tout ce que disaient les deux femmes. En faisant mine d'être divisées, de se disputer sans cesse et d'être en revanche totalement soumises aux sœurs, Suan et Léane créaient un écran de fumée. De plus, quand l'une se déclarait à contre-cœur d'accord avec l'autre, ça renforçait en réalité leurs propos communs. Idem quand l'une critiquait les affirmations de l'autre pour des raisons à l'évidence futiles. Elaine savait que Siouan et Léane jouaient ce jeu pour convaincre les sœurs de Salidar de se rallier à Rand. Cela posé, elle aurait bien voulu savoir quels autres objectifs elle poursuivait.
Elles ont raison,
grogna Ninevée avec un regard méprisant pour les deux comédiennes. Leur supercherie la révulsait, car pour rien au monde elle n'aurait fait semblant d'être soumise.